Raison gardée sur RCN avec la libre pensée de Meurthe et Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Raison gardée que nous proposons en tant que Fédération des libres penseurs de Meurthe et Moselle sur RCN qui nous accueille avec aujourd'hui Jean-Luc à la technique. Merci Jean-Luc. Une émission dédiée à une question brûlante et extrêmement grave. Au moment où nous enregistrons, nous sommes au mois de mars, mais depuis mi-février, et depuis la mort d'un militant d'extrême droite à Lyon, une issue tragique d'un affrontement provoqué par des groupuscules nationalistes et fascistes connus à Lyon, il n'a pas été un jour sans que des politiques, des éditorialistes, de pseudo-journalistes mercenaires du milliardaire Bolloré ne s'emparent de cette mort violente pour tenter de renverser la logique et les valeurs. Chaque jour, nous entendons dire que les antifascistes seraient devenus le danger, que c'est l'antifascisme qui est une force violente et mortifère et que c'est cette force-là qu'il faudrait éradiquer. Il faut pourtant pas avoir fait d'études de philologie ni être expert en étymologie pour comprendre que l'antifascisme vient s'opposer au fascisme et que c'est bien ce fascisme-là qu'il faut combattre. Le combattre lui et combattre tous ceux qui en font la promotion. Ce sont eux qui constituent le véritable danger pour nous toutes et nous tous, qui que nous soyons. Alors qu'est-ce qu'exactement finalement que le fascisme, comment se manifeste-t-il aujourd'hui? Qu'est-ce que l'antifascisme? Quelles en sont les valeurs? Quels sont ses moyens de lutte? Pour nous aider à y voir plus clair, avec l'ami Charles qui est avec moi encore aujourd'hui. Bonjour Charles.
Bonjour.
Nous avons le plaisir de recevoir Christophe.
Bonjour.
Et Théo.
Bonjour.
Du Mario Club, qui est un club sur Nancy, qui propose des temps de formation et d'information, historique notamment, sur l'extrême droite et justement l'antifascisme. On ne pouvait pas mieux trouver pour nous aider à y voir plus clair, puisque effectivement les médias mainstream, comme on le dit souvent, bien nous abreuvent de propos qui brouillent vraiment les perspectives, brouillent même les données historiques. Et cette émission va essayer de nous aider à y voir plus clair. Alors, peut-être en commençant par, tout simplement, qu'est-ce que c'est que le fascisme? Je me souviens d'une discussion avec un ami libre-penseur, pourtant, qui me disait « faut arrêter de tout qualifier de facho, il faut arrêter de parler de fascisme depuis la mort de Mussolini ». Alors, voilà, je vous laisse répondre à cette première remarque.
C'est une vaste question, ça va être, c'est difficile d'y répondre en quelques mots, mais on veut bien essayer, s'y coller. Je pense que il y a deux choses à travers le mot fascisme en fait qui se dégagent. Il y a le fascisme en tant que régime politique qui a historiquement existé, en l'occurrence en Italie, dans les années 20, de 1922 à 1945 précisément, et qui correspond au régime qu'a mis en place Benito Mussolini, qui est un peu la forme historique du fascisme. Et puis ensuite, il y a le fascisme en tant que formation politique, au contour mouvant, projet politique, même projet de société, qui dépasse en fait le fascisme historique porté par Mussolini, et qui permet en fait de qualifier des formations politiques et des projets de société qui ont comme racine une vision excluante, une vision autoritaire, verticale, qui assoit leur tentative de conquête du pouvoir sur le rejet et le combat de ce qui rentre pas dans la norme. Et donc, bon, voilà, de manière assez commune, tout ce qui est perçu comme étranger, comme opposant politique, comme minorité, et tout ce qu'il faut sortir du corps social et de la norme. Et voilà, et nous, c'est... Enfin, quand je dis « nous », c'est un nous assez général, hein. Mais en tout cas, ceux qui se reconnaissent dans la lutte contre l'extrême droite ont tendance à considérer que c'est important de pouvoir utiliser encore aujourd'hui le terme de fascisme pour désigner ces militants, militantes, ces formations politiques qui, bien souvent, aujourd'hui, eux-mêmes, avant se masquer, n'assument pas, mais par un souci de dédiabolisation et de un peu de pied dans la porte, n'assument pas cet héritage politique et la première chose que doivent faire sans doute des gens qui luttent contre l'extrême droite, c'est rappeler justement le quel est le vrai visage de ces organisations-là.
Sur le terrain, les groupes qu'on qualifie, en utilisant ce mot valise, de fascistes, sont d'une réalité complètement différente entre des identitaires, des catholiques, intégristes, traditionnalistes, des militants païens, des militants nationalistes révolutionnaires, des militants clairement avec des références néo-nazis. Même si ce terme est une étiquette qui nous permet de discuter et de parler de ces personnes pour lesquelles politiquement on a un vrai désaccord, ont réellement des projets souvent différents. Se prennent la tête entre eux régulièrement, catholiques, païens, nationalistes, révolutionnaires, identitaires, enfin voilà. En même temps, ils tentent parfois de s'agréger et de se retrouver sur quelques actions. On en parlera peut-être un peu métapolitique, c'est-à-dire en dehors du champ politique en tant que tel, puisque certains ne supportent pas le Rassemblement national de Marine Le Pen, d'autres trouvent que c'est génial, enfin voilà. C'est effectivement un terme usuel qui nous permet de facilement parler de cette classe politique, de ce groupe politique, mais qui a des réalités très très différentes.
Alors par exemple, vous dites qu'ils ont un projet politique, là on a parlé du RN, y a-t-il d'autres partis constitués officiellement connus que vous associez très clairement à un projet fasciste?
Bah, en pleine élection,
Zemmour peut-être?
Oui, en pleine élection municipale actuelle, quand on regarde les listes, la dire à Nancy, non, parce qu'à Nancy, il n'y a pas de liste RN, mais dans le département ou en Lorraine, le RN par exemple est très très souvent associé à l'UDR. Donc le parti de Ciotti, historiquement de droite, au sens républicaine, je mets des guillemets, hein, mais voilà. On voit effectivement un certain nombre de listes qui commencent à discuter, ou qui ont fait des fusions dès le premier tour de divers droites, qui sont catalogués par la préfecture divers droites, avec le RN. Certains, notamment là en Meuse, Maxime Amblard vient de faire la même chose, enfin vient de faire ça exactement la veille du premier tour. Et puis le parti Reconquête, effectivement, qui rassemble des déçus du Rassemblement national, qui ont fait des allers-retours entre Reconquête, le Rassemblement national, les identitaires. Oui, alors après, effectivement, soyons très clairs aussi, certains emploient ce terme-là pour qualifier une partie de la politique de groupe de droite dit républicain. Que ce soit le RPR, l'UMP ou les Républicains à l'époque, mais sur un bout de leur programme. Évidemment, on a entendu à un moment des Gilets jaunes qualifier des politiques d'Emmanuel Macron comme fascistes. Évidemment, politiquement, on s'en éloigne complètement et de Mussolini et du mot valise qu'on utilise actuellement. Mais on entend par restriction, autorité, présence du chef, etc., des morceaux qu'on a pu retrouver dans ce qu'on décrit des groupes Mussolini, autoritaire, Franco, etc.
Et puis même, moi, j'aurais tendance à dire que, au fond, ce qui compte aujourd'hui, c'est pas tant de savoir à quel point un fasciste devrait être un copier-coller d'un militant des années 30, mais c'est plutôt de comprendre la dynamique dans laquelle on est actuellement, qui est une dynamique un peu de backlash réactionnaire et autoritaire, même au niveau international, hein, qui fait suite à des années de lutte pour le progrès social, qui se sont déclinées sous plein de formes différentes. Et ce qui compte finalement aujourd'hui, c'est d'être capable de reconnaître et de désigner qui sont les alliés objectifs de cette dynamique réactionnaire. Parce qu'il y a certes d'un côté le Rassemblement National, qui est un parti d'extrême droite et qui ambitionne de conquérir le pouvoir. Il y a toute cette nébuleuse néo-fasciste d'extrême droite, radicale, etc., qui n'œuvre pas dans le champ électoral. Et puis, il y a tous ceux qui servent de strapontin et qui font le choix conscient. Quand je dis tous ceux, c'est... des millionnaires, multimillionnaires, des hommes et des femmes politiques qui se disent républicains, de droite, voire même du centre, etc., mais qui préfèrent choisir, en fait, ce choix conscient qui choisissent, en fait, le Rassemblement National, l'extrême droite, plutôt qu'une alternative de gauche et une alternative aussi au capitalisme. Et c'est, au fond, c'est ça qu'il faut réussir aujourd'hui à décrypter et analyser. Et peu importe finalement de savoir si on assiste à un processus de fascisation de l'État, si le fascisme est exogène à la République, s'il est endogène à la République, au fond, c'est plutôt réussir à comprendre le moment politique dans lequel on est aujourd'hui qui importe.
Et tu parlais à l'instant du rapport avec le capitalisme. Est-ce qu'il y a un parallèle aussi entre le soutien que les fascistes des années 30 ont pu trouver auprès des grands capitalistes et ce qu'on voit aujourd'hui ?
Bah, oui, alors c'est toujours compliqué historiquement de comparer des périodes parce que
elles sont forcément
différentes. On revit jamais l'histoire, donc c'est pour ça que c'est important d'essayer surtout de décrypter le temps dans lequel on est. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les années 30, au moment de la montée du fascisme et du nazisme, il y a un contexte de crise économique du capitalisme, dont le crash boursier de 1929 est l'expression sans doute la plus forte, et que à ce moment-là, il y a deux forces politiques qui s'affrontent littéralement, qui sont d'un côté le socialisme et toutes ses déclinaisons, qui à ce moment-là est un projet révolutionnaire, qui a triomphé en 1917 en Russie, qui s'exprime partout en Europe de l'Ouest dans les années 20, sous forme d'insurrection ouvrière très forte, et en face, il y a une bourgeoisie industrielle qui littéralement a peur de perdre la main, a peur de perdre ses privilèges et qui, à un moment donné, choisit l'option du fascisme et du nazisme comme rempart en fait à cette poussée révolutionnaire qui ébranle l'Europe à ce moment-là. Alors, c'est un choix. Faudrait rentrer dans les détails, mais on va pas le faire. Mais tous les tenants de la bourgeoisie capitaliste ne font pas directement ce choix-là. Il y a des débats internes, etc. Mais une grande partie le font. Et c'est ce que disent un certain nombre d'historiens aujourd'hui. C'est, si on prend le cas de l'Allemagne nazie, en 1933, Hitler, il est appelé au pouvoir. Et en fait, on assiste davantage à une conversion des élites économiques au nazisme qu'à un vaste mouvement populaire qui aurait poussé le NSDAP à prendre le pouvoir. Même si, encore une fois, au tournant des années 30, le NSDAP fait 25 à 30% aux élections. Mais moins, en fait, que le Parti communiste allemand ou le Parti social-démocrate allemand réunis.
Et quand vous disiez qu'il faut être attentif à ce qu'on perçoit aujourd'hui, à ces attitudes, à ces choix politiques, à ces orientations qui relèvent d'une forme de fascisme, comment vous voyez, parce que je pense toujours, là encore ce que je disais tout à l'heure, à ceux qui trouvent qu'on dégaine un peu trop vite cette accusation de fascisme, mais à la façon dont je trouve on a assez peu réagi à des formules qui nous viennent du passé, qui annoncent quand même quelque chose qu'on peut associer au fascisme. Je pense à cette candidate qui dit « travail, famille, patrie ». Est-ce que c'est... moi, j'ai du mal à croire que ce soit de l'ignorance aux excuses qui sont données, de dire « si on prend chaque mot séparément, on peut être pour le travail, on peut considérer que le travail est une valeur, on peut considérer que la famille est une valeur ». Et faire comme si on devait oublier à quoi ça renvoyait. Alors, est-ce qu'on n'est pas un peu pris au piège de tout cela, justement, le risque d'être renvoyé à une comparaison qui est paraît infondée? Et de l'autre côté, le risque de refuser de voir, en fait, ce qui transparaît dans les discours des gens, sans que même eux en aient forcément bien conscience. Je ne sais pas comment on peut se sortir de ça.
Concrètement, il faut aussi se dire que quand on dit que, avec une formule peut-être simple, et le fascisme est à nos portes, il est déjà dans certains pays au gouvernement. En France se pose la question des élections et des dernières législatives 2024, mais aussi 2027, la présidentielle. Le fascisme ne reviendra pas de la même manière. On n'aura pas le même bruit des bottes, on n'aura pas un moustachu, etc. Enfin, voilà. On a sous nos yeux Donald Trump. Quand je dis sous nos yeux, c'est un énorme pays. Alors, guerrier en ce moment, mais globalement, avec une milice l'ICE qui est très très inquiétante, où effectivement certains font des comparaisons entre les SA ou les SS après et la milice ICE. Mais voilà, encore une fois, les populations racisées sont montrées du doigt, les minorités et les personnes avec une orientation sexuelle jugées comme différentes, en tout cas loin de la norme voulue par Donald Trump ou d'autres, sont encore montrés du doigt. On a les États-Unis qui partent en guerre à tout va, comme dans les années 50, 60, 70, les Américains se croyaient rois du monde. Et je pense que Donald Trump a ce logiciel-là de l'époque. Il a encore ce logiciel-là et veut de nouveau être réellement le roi du monde. Donc, il faut vraiment se dire que le fascisme, pour prendre ce terme-là, ne reviendra pas de la même manière qu'on a pu l'avoir. Parce que le fascisme ne sera pas le pétainisme, ne sera pas le nazisme, ne sera pas l'Espagne de Franco. Voilà. Mais en même temps, il y a un certain nombre de morceaux dans ces 4-5 avec Salazar au Portugal, 5 pays autour de, enfin, les 5 pays avec la France, qui nous permettent de comprendre ce qu'ils avaient en commun, le culte du chef, les milices de rue, la fermeture des syndicats, des associations, un État fort, une assemblée qui ne sert plus à rien, enfin voilà. Et on voit que, parce que c'est le plus visible, que Donald Trump joue avec tous ses cursus en ce moment, quoi. Mm.
Et puis moi, je dirais qu'au-delà des formules choc comme celle de Martine Vassal sur Travail, Famille, Patrie, ou celle d'Aurore Berger sur le parti anti-France, qui est un concept maurassien développé par l'Action française au tournant du XXe siècle, il y a aussi cette manière, cette espèce de droitisation du champ politique auquel on assiste depuis des années, du champ politique d'une part et du champ médiatique d'autre part, avec voilà, des chaînes comme CNews qui déversent leur haine 24 heures sur 24 dans le salon des gens, avec ces digues qui sautent entre l'ORN et une partie de la droite, etc. Donc c'est aussi là où la manifestation d'un raidissement autoritaire et réactionnaire d'une partie de la classe politique, d'une partie aussi de la bourgeoisie, s'exprime en fait. Et finalement, ils sont surtout là, ces indices, je trouve, avec aussi voilà, l'islamophobie, la manière dont l'islamophobie a gagné du terrain énormément, qui n'est rien d'autre que la nouvelle forme d'un racisme historique contre les populations maghrébines, etc. Ils sont là, tous ces indices, tous ces symptômes d'une droitisation, voire d'une extrême droitisation de certains pans de la société. Ouais.
Et les guerres, parce qu'à l'instant on parle aussi des guerres qui sont déclenchées par Trump, dans lesquelles la France aussi vient jouer son rôle. Pour vous, c'est un moyen de faire entendre aussi aux gens, de susciter des peurs et donc de pouvoir installer cet ordre autoritaire encore plus facilement. Comment on peut analyser la place que prend la guerre à l'extérieur par rapport à ce qu'on vit, nous, à l'intérieur du pays?
Même la guerre à l'intérieur, ça fait plusieurs fois que Emmanuel Macron parle de réarmement. Mmh. Il a parlé de réarmement, de natalité, mais là, il parle d'envoyer des troupes, en tout cas de venir en soutien à des pays amis avec des alliances. Oui, pour la France, comme pour les États-Unis, on parlait de guerre. Une période où les gens ont peur et où les gens se méfient et où le personnage principal devient le sauveur, comme Pétain l'était en France, ça devient la personne centrale à qui on fait confiance, ou on doit faire confiance. Et tous ceux qui ont une histoire, ou en tout cas une façon de la raconter de manière différente, sont considérés comme des ennemis de l'intérieur. Enfin, et on le voit dans les opposants politiques chez Trump, on le voit dans tous ceux qui essayent de dire autre chose aux États-Unis, et ils sont assez nombreux. Enfin, on l'a vu à Minneapolis, où les habitants, une bonne partie, se sont révoltés et ont tenté, par un moyen ou par un autre, de s'opposer à ces milices. La guerre, ou en tout cas la peur, est un moyen de faire avancer une politique autoritaire et fasciste ou néo-fasciste, oui.
Ouais, moi, j'ajouterais aussi qu'une des caractéristiques de l'extrême droite, hein, n'importe quel moment de l'histoire, c'est une passion mortifère pour la violence. C'est une vision de la société, du monde, de l'ordre social qui doit être gagnée et maintenue par la violence, par la virilité. Ça d'une part, et que les tenants de ces politiques-là se tournent naturellement vers la guerre et vers un esprit guerrier, ça me semble évident. Et d'autre part, le fait aussi que le capitalisme en crise a historiquement trouvé dans la guerre une forme de débouché économique. Hein, et aujourd'hui, le fait, on parle beaucoup des États-Unis là, mais le fait qu'il y ait une alliance objective entre, d'une part, Trump et un certain nombre de faucons de guerre républicains et l'aile droite du parti républicain et la Silicon Valley la technologie, les nouvelles technologies, les tenants de ces nouvelles technologies, il y a une symbiose aussi autour de l'idée de faire de la guerre et de trouver un débouché, une guerre intérieure, ça a été dit, contre ceux perçus comme des étrangers à l'intérieur du pays, et à l'extérieur, à l'échelle planétaire, contre ceux perçus aussi comme les ennemis, alors d'un certain nombre de valeurs qu'on peut empiler. Et donc là, il y a une alliance objective pour aussi faire fructifier un marché. Hein.
Et là, il me semble que l'institution judiciaire aussi est mise un peu... elle est ou elle risque d'être mise au service de ce type de projet. Quand on voit comment justement des militants, on va en parler, donc justement antifascistes, mais syndicalistes aussi, politiques, etc., deviennent la cible d'un système judiciaire qui emprisonne, qui interdit, qui surveille. Est-ce que là aussi, historiquement, dans l'histoire du fascisme, on a vu ce processus-là, la volonté de, je pense, à faire des lois pour interdire de porter certaines critiques sur la place publique, la façon d'effrayer des syndicalistes en les menaçant de prison, en leur intentant des procès pour avoir mené tel ou tel combat. Est-ce que là aussi, c'est lié historiquement au fascisme ?
Oui, bien sûr. Mais alors, je pense que aujourd'hui en France, il y a encore une indépendance de la justice, il y a encore un certain nombre de contre-pouvoirs, des syndicats forts, le syndicat de la magistrature, etc. Il ne faut pas noircir trop le tableau, mais en tout cas, la criminalisation des luttes, c'est une caractéristique d'un raidissement autoritaire d'un État. Et on peut lire dans certains procès actuels qui sont attentés, je pense surtout là aux défendeurs de la cause palestinienne, par exemple, on peut voir parfois l'expression, en tout cas, d'une vision de l'ordre social et l'expression d'une vision politique conservatrice s'exprimer dans cette manière de criminaliser systématiquement certaines formes de contestation et certains contestataires.
Et dans plein de régimes, pour parler d'histoire, parce qu'on parle souvent d'histoire et notamment aussi aujourd'hui, dans plein de régimes, on parlait de l'Italie et de la France, les syndicats, par exemple, ont été interdits très très rapidement. 39-40 pour la France, Pétain. Mussolini a interdit les différents régimes. Pourtant, il était syndicaliste, lui, ouvrier, tout au début. Et il a créé un parti unique, un syndicat, pardon, unique fasciste. Donc on voit que tous ceux qui ont une expression différente et qui vont, à un moment ou à un autre, chanter une autre chanson que la sienne, la leur, prennent des risques. Donc oui, on a une criminalisation du mouvement social depuis plusieurs années. Évidemment, le moment le plus visible a été 2018-2019, les Gilets jaunes. Et puis après, les procès. Ça a été un moment assez particulier à vivre quand même. Et à l'intérieur, quand on y était, et après, à regarder, enfin analyser maintenant. Et puis des mouvements comme Sainte-Soline ou d'autres, où la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre ont pris une place énorme, énorme et inquiétante, réellement inquiétante en termes de démocratie.
Bien, merci. Alors heureusement, on peut lutter. Et c'est l'autre versant qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question de l'antifascisme, justement. Qu'est-ce que c'est et comment lutter contre ce fascisme ? Je vous propose d'en parler après une petite pause musicale qui nous rappelle que le peuple uni peut se battre, avec une chanson bien connue. Merci Jean-Luc.
RCN, Raison gardée, le dernier lundi du mois à 11h.
Nous sommes de retour avec Charles, Christophe et Théo pour parler de, du fascisme et de l'antifascisme. Maintenant, on a un petit peu essayé d'explorer ce qu'est le fascisme historiquement et aujourd'hui, comment il s'exprime. Et donc, pour contrer ce fascisme, eh bien, est né l'antifascisme. Alors, autre vaste sujet, mais essayons effectivement de dire depuis quand parle-t-on d'antifascisme ? Est-ce qu'on a parlé d'antifascisme dès les débuts avec Mussolini, avec le fascisme des années 30 ?
Alors, moi, je vais m'occuper de la partie européenne et puis mon camarade nuancera derrière. Mais en tout cas, à l'échelle européenne, les premiers recours au terme d'antifascisme naissent quasiment en même temps en fait que le fascisme en Italie. Et il faut avoir en tête qu'à ce moment-là, on sort de la Première Guerre mondiale. Donc déjà, il y a toute une génération, toute une population européenne qui a été très marquée par le conflit, très marquée par la violence aussi du conflit, donc qui quelque part a été acculturée aussi à la violence. Beaucoup de militants du mouvement ouvrier ont participé à la guerre, hein, contraints, forcés, ou alors de plein gré parce qu'ils y voyaient un débouché potentiel révolutionnaire. Mais toujours est-il que, au sortir de la guerre, il y a cette situation-là, les mentalités sont celles-ci. On a d'un côté, comme je le disais brièvement tout à l'heure, des insurrections ouvrières dans différents pays d'Europe de l'Ouest, hein, en Allemagne notamment, en Italie, en fait dans le siège de la Révolution russe de 1917. Donc il y a vraiment une offensive du mouvement ouvrier pour prendre le pouvoir. Et face à ça, on voit se développer assez rapidement des milices de rue qui prennent la forme des chemises noires mussoliniennes en Italie, des sections d'assaut, des corps francs avant même, puis des sections d'assaut en Allemagne, des différentes ligues en France, elles sont nombreuses, voilà, ainsi de suite, et qui vont faire le coup de poing contre les usines occupées par les ouvriers, briser les grèves, exercer une violence très grande, hein, très grande violence. Hein. On a du mal à se représenter aujourd'hui, mais il y a des morts, etc. Contre ce mouvement ouvrier qui se révolte. Et c'est d'abord ça l'expression du fascisme, en fait. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête. C'est d'abord mater dans la rue, par la force, dans le sang, les organisations politiques et les militants des organisations politiques adverses, à savoir, en l'occurrence, celles du mouvement ouvrier. Et donc, en réaction, les militants socialistes, communistes, syndicalistes vont s'organiser, s'auto-organiser en groupes d'autodéfense pour protéger les usines occupées, pour protéger leurs locaux, leurs journaux des attaques fascistes. Certains vont s'armer pour répondre à l'armée, à la violence déployée par ceux d'en face. Et donc là, voilà, tout de suite, c'est l'antifascisme né dans un contexte de nécessité du mouvement ouvrier de se défendre face à la violence en face. Et puis, tout au long de l'entre-deux-guerres, l'antifascisme évolue, grandit. Il faut avoir en tête qu'à ce moment-là, en fait, c'est pas une lutte spécifique, l'antifascisme. C'est une lutte qui est menée par les organisations politiques et syndicales du mouvement ouvrier. Hein, on n'est pas uniquement antifasciste, en fait. On est communiste, on est anarchiste, on est socialiste, on est syndicaliste. Et donc, parce qu'on est tout ça, on est antifasciste. Et donc, petit à petit, à mesure que les régimes autoritaires vont s'installer en Europe, l'antifascisme va prendre une place de plus en plus importante au sein de ces organisations-là et va prendre différentes formes, des comités de vigilance d'intellectuels à des groupes d'autodéfense dans la rue. Il y a tout un spectre, en fait, d'action, de mobilisation et de réflexion autour de la meilleure manière de lutter contre cette montée en puissance de l'extrême droite, qui en France, bon, peut-être on en reviendra, trouvera son expression la plus forte au lendemain de la manifestation insurrectionnelle de février 34, menée entre autres par des ligues d'extrême droite.
Et la cagoule, ça
pas la cagoule, mais non, plutôt, il y a qui ? Il y a l'Action française, un certain nombre aussi d'associations d'anciens soldats, etc.
Bon, c'est la Ligue des Patriotes.
La Ligue des Patriotes, etc. Et donc, en réponse à ce moment-là, hein, de d'ébranlement de la République, il va y avoir une suite de moments politiques, de grèves ouvrières un peu insurrectionnelles dès les lendemains jusqu'à la constitution du Front populaire quelques mois plus tard, quoi.
D'accord.
Alors, la nuance oui. dont il parlait, pardon, que j'ajoute une paire de fois, c'est l'historien Marc Bray, historien de l'antifascisme, historien américain états-unien de l'antifascisme, qui est maintenant, qui a quitté les États-Unis Trump parce que trop menacé pour ses études. Mmh. Hein, on ne parle même pas d'idées politiques, mais de ses études. Qui a sorti un bouquin que je vous conseille vraiment de lire, qui s'appelle L'antifascisme, son passé, son présent, son avenir. Il y a une nouvelle édition, je crois qu'il date de 2017, et une nouvelle édition 2024. Réellement, c'est une bonne référence intellectuelle sur l'antifascisme. Marc Bray rappelle que Robert Paxton parle, lui, en utilisant cette formule, de proto-fascisme, c'est-à-dire de fascisme avant l'heure, donc avant l'Italie de 1922, pardon, pour parler des réactions au Ku Klux Klan aux États-Unis à la fin du 19e siècle et au mouvement de citoyens américains progressistes qui se sont organisés entre eux pour protéger des meetings qui tentaient de s'opposer à la ségrégation, au lynchage des Noirs, qui se sont armés et qui ont constitué, comme Théo vient de le dire sur l'Italie, les groupes de rue, les premiers groupes de rue. Donc là, effectivement, on a changé de focale, on n'est plus en Europe, mais aux États-Unis. Voilà, et donc Robert Paxton et Marc Bray le citent et expliquent beaucoup cette notion de proto-fascisme, donc qui remonte 40 ans, grosso modo, avant le fascisme, ce terme italien.
D'accord. Alors, pour faire l'avocat du diable, et je pense à ce qu'on peut entendre encore aujourd'hui, de dire, mais s'il y a un problème, il y a la police pour protéger les personnes qui n'ont rien à se reprocher. Alors, est-ce qu'à l'époque, il y a eu aussi ce genre de réaction, de dire aux personnes, vous n'avez pas à vous organiser pour réagir, il y a des forces de l'ordre qui sont là pour ça?
Non, parce que, différentes choses. D'abord, encore une fois lié aussi à ce rapport à la violence et aux mentalités des années 20-30, au fait aussi que le mouvement ouvrier est authentiquement révolutionnaire à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire qu'il considère que prendre le pouvoir, renverser l'ordre établi, ça passe par des moments insurrectionnels. Donc il y a quand même ça qui est dans les consciences des militants et des militantes. Et le fait que, en tout cas, en Italie et en Allemagne, c'est assez manifeste, La démocratie bourgeoise, les tenants de l'ordre de la démocratie bourgeoise, l'État, a tendance à faire preuve d'une relative indulgence, voire même d'une connivence avec les chemises brunes ou les sections d'assaut. Pour le dire clairement, ils jouissent d'une relative impunité. Parce que, et ça renvoie à ce qu'on disait précédemment, dans cette espèce de moment de révolutionnaire, en tout cas d'ébullition révolutionnaire que traverse l'Europe, la bourgeoisie capitaliste choisit clairement qui sont ses principaux ennemis, à savoir les socialistes, les communistes, le mouvement ouvrier.
Alors, y a-t-il un moment où, après la Seconde Guerre mondiale, cette question peut-être du fascisme et de l'antifascisme s'estompe ? Puisque là, dans tes explications, on sentait bien aussi ce lien avec la Première Guerre mondiale, hein, et toute une mentalité qui s'est développée. Est-ce qu'on peut penser qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, étant donné les horreurs découvertes, vécues par chacun, est-ce qu'il y a eu une sorte de disparition, mais en tout cas, est-ce que le fascisme et donc la lutte antifasciste se sont estompés ?
Alors, sur le fascisme, oui, évidemment. Les mouvements fascistes, en tout cas, pétainistes en France se sont décrédibilisés complètement, ont collaboré. Le régime de Vichy a fait plus que collaborer, puisque la loi sur les Juifs 1942, etc., on n'était même pas dans le programme ou des demandes d'Hitler. Donc l'extrême droite sort décrédibilisée complètement de la Seconde Guerre mondiale. Une partie du patronat a collaboré et a fourni aussi, a prêté ou a donné son industrie à la guerre et au régime de Pétain. Donc, grosso modo, il y a une période intellectuelle, grosso modo, de 45, on va faire comme ça très rapide, de 45 à 55, une période intellectuelle où certains continuent à écrire et à théoriser sur le fascisme, en tout cas sur les mouvements autoritaires, réactionnaires, etc. Et le premier mouvement qu'on voit réapparaître est lié à la guerre d'Algérie, donc 54-62, où en Algérie et en France, métropole, l'ITEN, pardon, l'OAS importe concrètement la violence et donc 60, 61, 62 provoque des attentats et bouscule la République française des militants qui évidemment ont connu la fin de la Seconde Guerre mondiale et n'entendaient plus pendant environ 10 ans 45-55 ont ressurgi et qu'on a connu ici à Nancy en Lorraine puisqu'il y a eu des attentats de l'OAS. Donc c'est une des premières, un des premiers moments un peu clés, un peu visibles où l'extrême droite réapparaît, en tout cas en France.
Moi j'ajouterais que effectivement, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le nazisme et le fascisme en tant qu'idéologie sont disqualifiés. Hein, ils ont perdu la guerre. Il y a une disqualification énorme de ce qu'ont été ces régimes-là. D'une part, donc dans la société, il y a un relatif consensus autour de ça. Il n'empêche que un certain nombre de militants, collaborateurs, collaborationnistes, etc., sont recyclés dans l'appareil d'État ou échappent à l'épuration. Donc ça, c'est une réalité. Donc il y a des structures liées à l'histoire de l'extrême droite française qui demeurent. Elles sont certes un peu souterraines, clandestines, etc., mais elles demeurent. Donc on a ces deux tendances-là. Et puis, comme tu l'as dit très justement, la guerre d'Algérie qui en fait, offre une occasion à l'extrême droite française de refondre son logiciel. Désormais, il va y avoir un discours qui va se recentrer à la fois sur le nationalisme et sur le cadre européen, un discours de défense de la civilisation, de nostalgie d'un empire dans lequel la France dominait le monde et un discours racialiste aussi qui va se mettre en place sur fond de décolonisation.
Et donc le mouvement antifasciste, les groupes antifascistes se reconstituent à partir de ce moment-là. On peut trouver des traces de groupes constitués liés justement à cette situation de la décolonisation algérienne.
Alors, en fait, comme pour l'entre-deux-guerres, l'antifascisme dans les années 50-60-70 n'est pas une lutte spécifique. En fait, elle est le fait, encore une fois, de militants et de militantes qui sont engagés dans des organisations politiques du monde ouvrier, qui s'engagent aussi pour d'autres causes. Hein. La réponse à l'OAS, ça va être les réseaux qui soutiennent le FLN, par exemple, en France. Ça va être le réseau Janson, ça va être la manifestation réprimée à Charonne pour la paix, ça va être des militants, parce qu'on va pas revenir dessus, mais les organisations politiques ont eu une attitude parfois relativement lâche par rapport au conflit, hein, que ce soit le PC dans une certaine mesure, et surtout le Parti Socialiste. Voilà. Et puis après, dans les années 60-70, on a, en gros, les militants et militantes issus de mai 68, qui font partie des organisations marxistes-léninistes qui sont nombreuses à cette époque-là, hein, la Ligue communiste révolutionnaire, la gauche prolétarienne, etc. Et ces militants et militantes-là, outre le fait que beaucoup d'entre eux sont issus de familles de déportés ou de résistants, ils ont un ADN foncièrement antifasciste. Ils considèrent aussi que, en tant que militants révolutionnaires, ils doivent écraser le fascisme dans l'œuf parce que c'est un moment aussi où on voit réapparaître dans la rue des groupuscules d'extrême droite violents, Ordre Nouveau, Le GUD, Occident, etc., etc. Mais voilà, on est encore dans cette lignée quand même d'un antifascisme militant et politique hérité des années 30 qui s'inscrit dans une idéologie et une perspective politique et révolutionnaire plus vaste que l'unique question de lutter contre l'extrême droite.
D'accord, quelque chose qui était ancré, qui était profondément ancré en eux, historiquement, voilà, qui avait nourri tout un système de valeurs.
Et qui s'adossait aussi à une vision politique, à une proposition politique, qui était celle du communisme. Qui était de dire, en fait, on s'oppose aux fascistes parce que ce sont des fascistes, mais aussi parce que nous, on veut faire advenir une société communiste et que eux sont un obstacle entre nous et cette société idéale vers laquelle on tend.
Alors, vous me direz, après notre nouvelle pause musicale, si cette question de l'antifascisme aujourd'hui est donc très différente de cet antifascisme-là qui se manifeste dans les années 60 et 70 avec justement une valse antifasciste.
Es el vals antifascista, lo bailan los guachos, lo bailan las guachas. Es el vals antifascista, no dejaremos de luchar jamás.
En la esquina de un lugar de bar, borracho de idea, me puse a bailar. Tus ojitos de bandida no me dejan de mirar. Brindemos por los que están presos, brindemos por los que no están. Aunque la muerte sea nuestro final, nuestra trinchera es amor y libertad, la borrajada de algarabía, ríos de lágrimas, caos y felicidad. Aunque la muerte sea nuestro final,
es el vals antifascista, lo bailan los guachos, lo bailan las guachas. Es el vals antifascista, no dejaremos de luchar jamás.
Tu veux une valse antifasciste, t'es motivé, t'es sur la piste, tu l'enregistres dans la playlist, tu la partages, tu prends des risques, t'es un wokiste, séparatiste, t'es un gauchiste, indigéniste, t'es anarchiste, t'es féministe, faut que tu fasses gaffe, t'es sur la liste, tu veux de la valse, tu veux guincher, t'auras du rap, poil à gratter, ça va kicker, ça va piquer, y'a des oreilles qui vont saigner, ils ont la haine des immigrés, ils ont la trouille d'être remplacés, n'en fallait pas nous inviter, n'en fallait pas coloniser, on est sincère, on est bruyant, on est bavard, on est barbare, on est saoulant, évidemment, on est sympa, mais pas souvent. On refait le monde, il est hardcore, on le critique, on le décore, on le bouscule, on l'améliore, quand on est plein, on est plus fort.
Et c'est le vals antifascista, lo bailan los guachos, lo bailan las guachas. Et c'est le vals antifascista, no dejaremos de luchar jamás.
Raison gardée, sur RCN, on s'arrête, on réfléchit.
Et nous parlions avant cette valse antifasciste, de l'antifascisme justement, notamment en France, dans les années 1970. Alors qu'en est-il ensuite de cette lutte antifasciste ?
Dans les années 70, et en plus, la radio et la télévision étaient déjà présentes. Il y a des reportages un peu connus et historiques sur les mouvements les réactions antifascistes. Elle était dans la rue, elle était présente, elle était casquée, musclée. Voilà, il y avait une vraie forte opposition. Et voilà, sur certaines images, les forces de l'ordre avaient peur et fuyaient. Enfin, je glorifie pas ça du tout, la bataille dans la rue était une vraie bataille dans la rue. À partir des années 80, les choses sont un peu plus polissées. Alors évidemment, on a des années 80 avec SOS Racisme, qui n'est pas la lutte contre l'extrême droite, mais sur le racisme, qui a été très visible sur les premières années des années 80. Et puis, à partir de 84-85, les organisations, là, antifascistes, SCALP, donc Session Carrément Anti-Le Pen, ou No Passaran, les réseaux No Passaran, et puis Reflex, la revue de réflexion, a commencé à travailler et sur la partie présence dans les mouvements sociaux, et sur la partie présence dans la rue, et sur la partie intellectuelle et documentation. La même chose, donc, au début des années 90, le mouvement Ralph Ron, donc les copains et copines des SCALP, No Passaran de l'époque, étaient plutôt avec un penchant libertaire, anarchiste. Soyons clairs, Ralph Ron était plus proche du mouvement marxiste, communiste, de la LCR. Là aussi, sur un mouvement plus masse, plus intellectuel, en tout cas à la base, c'est l'appel des 250, qui sont des historiens, des acteurs, des personnalités publiques, qui disent qu'il faut faire quelque chose face au Front National. Ça monte de trop, là. Et là aussi, ce mouvement qui est clairement antifasciste, qui se revendiquait antiraciste et antifasciste, prend part aux luttes sociales. C'est la période aussi avec droit au logement, c'est la période avec AC, Agir ensemble contre le chômage, etc. Donc, est présent dans les luttes sociales. Donc, relie les luttes sociales, la politique et l'antifascisme, mais met un accent fort sur l'antifascisme et de manière d'opposition société avec un autre projet de société, mais aussi de manière plutôt intellectuelle avec des réunions, avec un journal qui était une partie de la colonne vertébrale de ce mouvement Ralfront, qui voulait aussi documenter. Et réellement, soyons clairs, pour avoir vécu les deux, le mouvement autour des camarades libertaires, Scalp, No Passaran et Ralfront, arrivaient à travailler ensemble, et même si ce n'était pas toujours le cas, il y avait vraiment des choses complémentaires et différentes. Et c'est des belles années, très honnêtement, ces années 85... jusque 2000, grosso modo, 95 peut-être, 2000, allez 2000, où l'antifascisme est une valeur affichée. Le triangle rouge de Ralfront était sur toutes les vestes, tous les blousons, personne n'avait peur de l'afficher, personne ne se le faisait arracher dans la rue, et on répondait aisément aux sollicitations, aux médias, aux interviews. Voilà, on en discutait déjà ensemble une fois, on donne son nom, il n'y a pas de souci, on ne se cache pas, voilà. Ce qui, malheureusement, en ce moment, où on joue plus sur les pseudos et... actuellement, la période est pas la même, et avec la quinzaine qu'on a vécu là et qu'on vit, enfin la quinzaine depuis 15 jours, voilà, les antifascistes se montraient du doigt alors qu'à l'époque c'était une gloire.
Moi, je dirais aussi pour parler de l'actualité de l'antifascisme et de son évolution à partir des années 80, qu'il y a eu un peu un double mouvement. Il y a eu d'une part une sorte de normalisation au sein des partis de gauche à partir des années 80 et de l'exercice du pouvoir par Mitterrand, la gauche de gouvernement, une sorte d'abandon déjà du paradigme révolutionnaire, etc. Enfin, ça faisait longtemps, mais ça a été vraiment acté à ce moment-là. Et une forme de manière de minimiser aussi le fascisme et l'extrême droite, en tout cas la persuasion que ça n'allait pas forcément revenir, alors même que c'était un moment de construction aussi du Front National à ce moment-là, qui a fait que ces partis de gauche qui historiquement assumaient la fonction de mener le combat antifasciste s'en sont départis en fait progressivement. Et ce qui a amené les groupes antifascistes, en tout cas les militants et militantes qui continuer à considérer l'antifascisme comme un combat nécessaire, à s'autonomiser progressivement de ces grands groupes-là et politiques-là. Et donc, tout en continuant à s'investir dans le champ des luttes sociales, comme ça vient d'être raconté là par mon camarade, de ne pas se contenter uniquement de combattre et contrer l'extrême droite, mais aussi de tenter de nourrir des alternatives sociales. Mais les groupes antifascistes se sont retrouvés relativement isolés, je pense, c'est mon analyse, surtout après, dans les années 2000, à part de temps en temps quand Jean-Marie Le Pen allait au deuxième tour des élections et que soudain tout le monde se réveillait antifasciste. Mais sinon, en dehors de ce moment-là, on a vécu plutôt une espèce d'illusion comme quoi l'extrême droite était quelque chose de lointain et qu'il fallait en tout cas pour les cadres de ces partis politiques là de gauche se concentrer sur la conquête du pouvoir, et je pense que ça a contribué malheureusement à amoindrir en fait le camp de l'antifascisme, la capacité de lutte contre l'extrême droite, et que on assiste depuis quelques années peut-être à une marche un peu arrière par rapport à ça, en tout cas dans un certain nombre de collectifs de gauche, partis, syndicats, etc., qui prennent à nouveau au sérieux la possibilité de l'extrême droite au pouvoir, et qui et ça, c'est peut-être un des effets positifs quand même de la période. On assiste, alors certes, à la fois une criminalisation du terme d'antifasciste, mais en même temps un retour aussi de son usage dans les sphères militants et militantes comme de quelque chose qu'il faut assumer et comme de quelque chose qui fait partie prenante de la lutte. Et en fait, c'est ça, je pense, ce vers quoi il faut aller. Faire en sorte que tout le monde considère que l'antifascisme, c'est l'affaire de tous et toutes.
Alors, comment faire peut-être, puisqu'on parle de cette criminalisation aujourd'hui, qui conduit à associer immédiatement antifascisme et violence pour certains, infondé, inconsidéré, l'idée d'un danger qui viendrait des antifascistes, alors qu'à l'instant, vous expliquez bien comment il y a toute une réflexion aussi qui a été proposée dans les années 80 avec des textes, des liens avec le monde syndical, le monde de la lutte sociale. Comment nous, aujourd'hui, on peut être justement fièrement antifasciste et comment lutter contre cette vision-là qui est assénée matin, midi et soir dans certains médias?
Alors, il faut aussi se souvenir, c'est pas très vieux, hein, mais que ça fait des années que le mouvement social est criminalisé, donc il n'y a pas que les antifascistes depuis 15 jours ou depuis 2 ou 3 ans dans la bouche des personnalités et des membres du gouvernement. Je vais en reparler des Gilets jaunes. Voilà, ils ont été montrés du doigt, ils sont passés au tribunal, c'était honteux, il y avait de la casse, on a vu ces images où Paris, où toute grande ville, mais avant tout Paris, était à feu et à sang, et on les a vraiment montrés du doigt. Le trouble, c'était eux, c'était pas la révolte qu'ils portaient, quels que soient les arguments et les revendications, c'était pas des Français, des Françaises, en tout cas tous ceux qui habitent en France, qui étaient dans une période difficile de crise économique, etc., mais bien ceux qui revendiquaient quelque chose et qui avançaient, où on envoyait les forces de l'ordre et où on a criminalisé complètement avec une réponse judiciaire. Voilà, c'est juste pour dire que c'est pas depuis quelques années. Évidemment, l'antifascisme est remis sur la table, là, depuis, grosso modo, un peu plus de 10 ans, avec la mort du camarade Clément Méric, donc en juin 2013, où un certain nombre de personnes se sont dit ou redit « c'est pas possible de regarder ça de loin ». Et donc un certain nombre de groupes qui se sont montés, donc groupes antifascistes, sont montés après cet électrochoc du meurtre de Clément Méric à Paris. Voilà, donc c'est aussi une réaction comme celle-là. Ça fait 10 ans, enfin 12 ans, 13 ans, on est en 2026, que les choses bouillonnent à droite et à gauche, bouillonnent positivement, que ça se prépare, que ça mijote, que ça miomiote, comme on dit en Lorraine, et que les choses doivent être reliées avec le mouvement social, repris par des groupes plus larges, politiques, syndicaux, militantes, etc., mais doit être remis en avant et pas séparé de la politique, comme pas une politique au sens large, pas des partis politiques, mais de la politique telle qu'on a pu le vivre à certaines époques.
Ouais, moi je dirais que ce qui importe sans doute dans la période actuelle, c'est d'une part rappeler d'où vient la violence. Elle vient à la fois de l'extrême droite et sous ses différentes déclinaisons, mais aussi du néolibéralisme, d'une violence sociale et écologique, etc. Terrible.
À laquelle réagissaient les Gilets jaunes, justement.
Bien sûr. Donc c'est important, voilà, de prendre un peu de hauteur et de sortir du fait divers, qui est le fond de commerce, malheureusement, du champ médiatique actuellement. Politiser les choses, en fait. Et d'autre part, approfondir ce mouvement qui consiste à, comme ça a été dit avant, réinscrire l'antifascisme dans un mouvement politique plus vaste et dans une perspective politique plus vaste de transformation du capitalisme, d'égalité, d'émancipation, de justice, et donc de réussir aussi à sortir un peu de l'impasse dans laquelle le mouvement s'est retrouvé, un peu malgré lui, suite aux abandons successifs de ces forces politiques dont je parlais précédemment, et qui a fait que on a fini par considérer que les antifascistes, c'était juste des gens qui se battaient dans la rue, qui faisaient de la muscu, qui portaient des cagoules, etc. Et que ça se réduisait à ça. Et donc, il y a vraiment une nécessité, en fait, de réinscrire dans le camp social l'antifascisme comme une des boussoles nécessaires pour l'avenir.
Merci. Je crois que ce sera le mot de la fin. Est-ce que, Christophe, tu peux juste rappeler l'ouvrage que tu nous conseillais tout à l'heure de Marc Bray ?
Oui, qui s'appelle « L'antifascisme, son passé, son présent et son avenir ».
D'accord, merci.
Avec une belle couverture rouge, très visible en librairie.
Et chez Libertalia, il y a les 10 questions sur l'antifascisme. Je crois que c'était un ouvrage de la Horde.
C'est les camarades de la Horde.
Les camarades de la Horde.
Effectivement, deux livres de référence pour réfléchir et comprendre.
Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être venus nous éclairer un peu. Merci Jean-Luc à la technique et à très bientôt sur RCN.